Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de l'accastillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winches, systèmes hydrauliques et accastillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'América à The Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installé en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Black Magic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 163e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 mai, il est 10h30 et nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité du jour, à savoir les arrivées depuis lundi soir des IMOCA sur The Transat CIC, avec un invité qui a suivi la course de près de chez lui à Marseille, lui qui a déjà une belle expérience de l'IMOCA en solitaire bien évidemment, mais aussi auprès de Jérémy Bayou et de Maxime Sorel. Il s'agit bien évidemment de Christopher Pratt, avec qui on va également parler d'Ocean 50. Salut Chris.
Et salut Axel.
Eh bien Christopher, avant d'échanger sur cette Transat CIC qui aura tenu toutes ses promesses en IMOCA, je vais faire un rapide récapitulatif de cette 15e édition. Le départ a été donné le dimanche 30 avril pour la première fois de l'Orient, avec d'entrée une prise de pouvoir de Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. La flotte des IMOCA a mis le cap sur le sud-ouest de l'Irlande pour contourner un centre dépressionnaire avant un grand bord de Richin et une bataille de position entre les nordistes, dont Charlie Dalin et Johan Richaume, et les sudistes, emmenés par Paul Meya et Nicolas Lundven. Après la traversée d'une dorsale anticyclonique qui n'a pas fait de grosses différences, les solitaires ont dû négocier un deuxième centre dépressionnaire au milieu de l'Atlantique, et c'est là que Johan Richaume a pris le dessus sur Charlie Dalin, qui a connu un départ à l'abatté. S'en est suivi un long bord de portant dans du vent fort qui a donné lieu à un gros retour de Boris Herrmann. L'approche de la ligne vers New York s'est faite ensuite dans des conditions plus faibles, et Johan Richaume a réussi à garder sa place de leader pour couper la ligne d'arrivée située à un peu plus de 100 milles au large de New York, en vainqueur lundi soir à 20h23, avec 2h20 d'avance sur Boris Herrmann et un peu moins de 6h sur Sam Davis, qui signe une très belle troisième place sur le podium. Sont ensuite arrivés dans la nuit Charlie Dalin, Maxime Sorel et mardi matin Yannick Bestaven et Justine Métro. Voilà pour ce petit récap de cette Transat CIC en IMOCA. Christopher, tu as bien évidemment suivi de près cette Transat en solitaire. Est-ce que, si on fait un peu la big picture comme on dit, est-ce que tu as aimé cette Transat en solitaire et est-ce qu'elle a été fidèle à sa réputation?
Aimer suivre, oui, toujours. Après, c'est sûr que je préfère être sur l'eau que regarder les copains sur l'eau, mais c'était hyper intéressant de suivre ça, de voir comment ils ont les uns et les autres géré cette Transat qui est quand même une Transat difficile, on l'a dit et redit, hein, une Transat très très nord, fidèle à ce qu'on pouvait attendre. Finalement, ils s'en sont quand même bien sortis, si on peut dire, parce que même s'il y a eu un passage avec du vent très fort, tu l'as souligné, hein, ce grand bord de Richin en plein milieu de l'Atlantique avec du vent de nord, une mer vraiment très compliquée. Et donc ça a été vraiment il y a eu 24 heures, 36 heures vraiment très très dures. Néanmoins, on n'a quasiment pas fait de prêt sur cette transat. Donc, pour une transat Nord, c'est quand même assez inédit. Ils ont réussi finalement à passer au-dessus des systèmes météo. Et donc voilà. Donc, on a quand même une transat qui a été finalement un peu plus facile que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, facile, je mets des guillemets, hein, parce que naviguer en solitaire en IMOCA, déjà, c'est compliqué. Et puis, dans ces conditions de mer, de froid, de vent, encore plus, ils ont échappé au vent dans le nez et donc ça c'est quand même assez notable et on s'y attendait pas forcément, donc je pense qu'ils sont tous assez contents finalement de la manière dont la course s'est déroulée en termes de météo.
Oui, on entend parler d'une très bonne répétition en vue du Vendée Globe, hein, comme tu l'as dit, hein, il y a eu peu de prêts à part au tout début, après ça a été essentiellement le grand bord de Reaching puis du portant. Finalement, le portant c'est les conditions majoritaires qu'on rencontre en tout cas dans les mers du Sud sur un Vendée Globe. C'était un bon galop d'essai.
Oui, un très bon galop d'essai, et puis on voit bien, voilà, on avait avec toi fait les pronostics, je crois, il y a 15 jours dans la newsletter Tip & Shaft, et je pense que ce soit Yann, je me rappelle plus qui y avait d'autres dans les pronostiqueurs, mais bon voilà, on a quand même fait plutôt les bons, on voyait les bonnes personnes devant, donc je trouve qu'il y a pas trop de surprises sur les gros bras qui ont été devant, et je trouve que ça c'était assez aussi ressemblant avec ce qu'on peut connaître sur un Vendée Globe, c'est-à-dire des bateaux qui vont vite dans certaines conditions, puis après c'est d'autres bateaux qui sont un peu plus à l'aise, et puis de la casse matérielle, hein, puisqu'on a quand même eu Nicolas Lunven qui casse son bout dehors, Paul Meillat, hein, dans les favoris, Paul Meillat qui est obligé de ralentir complètement, enfin de s'arrêter complètement quasiment avec un problème sur son foil, et puis certainement d'autres problèmes matériels qu'on n'a pas, dont on connaît pas encore la teneur, hein. Je pense notamment à Charlie Dalin, on a vu qu'il a vraiment ralenti sur la fin de course, sur la partie portant. Donc je j'ai pas d'infos, mais moi j'ai l'impression qu'il avait vraiment un problème avec ses grandes voiles de portant, puisque dès qu'il y avait des vents un peu moins soutenus ou du portant, il était vraiment en difficulté, et dès que le vent revenait au reaching, il était de nouveau à peu près dans ses targets. Donc voilà, je trouve que ça reflète un peu ce que peut être un Vendée Globe, c'est-à-dire c'est avant tout une course d'endurance, une course de gros bras, une course pendant laquelle il faut naviguer proprement et en même temps préserver le bateau, et puis aussi avoir un peu de chance, hein, parce que voilà, je pense notamment à Paul qui avait fait vraiment une super course, qui était aux avant-postes, qui jouait potentiellement la victoire sur cette course et qui sur casse de son foil se retrouve relégué à l'arrière, mais voilà, ça c'est vraiment la chance qu'il faut avoir pour pouvoir gagner ce type de course là.
Tout à fait, ouais. On va revenir un petit peu sur le début de la course. On va refaire un petit peu le match de cette Transat CIC qui commence donc par une montée vers l'Irlande et un premier abandon notable, celui de Jérémy Bayou sur un problème d'été de J2, si je me trompe pas. Tu connais bien Jérémy, hein, tu as navigué plusieurs saisons avec lui sur Charal dans Tip & Shaft justement la semaine dernière. Yann Eliès, quand on commentait un peu cette première semaine de Transat CIC, disait que Charal 2 était un très bon bateau, très léché, très performant, mais qu'ils avaient peut-être un peu négligé l'essentiel, c'est-à-dire la fiabilité. Quel est un peu ton avis sur la question? Est-ce que tu en sais un peu plus que nous sur la varie qu'a eu Jérémy?
Non, j'en sais pas du tout plus. J'ai vu que j'ai l'impression que c'est une pièce mécanique plutôt en haut de l'été de J2. Donc l'été de J2, hein, pour les auditeurs, c'est vraiment l'été structurel, c'est celui qui tient le mât et qui est obligatoire. Donc déjà c'est déjà quand on casse cet été là et que le mât tombe pas, c'est déjà une très bonne chose. Donc je pense qu'ils sont, voilà, c'est déjà bien de pas avoir eu un problème de dématage à suivre avec la casse de cette pièce là. Après, je pense pas qu'on puisse rapporter ça au fait de négliger une certaine forme de fiabilité ou de simplicité, hein. C'est une pièce mécanique qui a cassé, j'ai pas du tout les infos, donc je vais pas m'exprimer sur ce sujet, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est effectivement dommage, parce que je pense que Jérémy, sur cette transat avec son bateau, était potentiellement, voilà, quelqu'un qui pouvait être devant et être sur le podium. D'ailleurs, je crois quand il abandonne, il est en seconde place, plutôt bien placé, légèrement en arrière de Charlie Dalin. Donc voilà. Après, c'est encore une fois, c'est des casses matérielles qui continuent d'arriver, qui continueront d'arriver, que ce soit des chocs avec des ovnis ou des problèmes de fiabilité ou de pièces qui cassent. Ça reste un sport mécanique. Et on a beau être les mieux préparés du monde, et ben on n'est pas à l'abri de ce type de mésaventure.
Jérémy qui devrait traverser l'Atlantique en convoyage pour prendre le départ de la New York Vendée Les Sables fin mai. On revient sur le début de course marqué par la prise de pouvoir rapide de Charlie Dalin dans des conditions qu'on dit plutôt assez favorables à son bateau, c'est-à-dire il y avait un petit peu de prêt quand même au départ. On savait que Charlie avait un gros enjeu de qualification sur cette Transat CIC parce qu'il devait la finir pour se qualifier, ce qui est chose faite maintenant. Est-ce que tu as été surpris qu'il imprime d'entrée un rythme assez soutenu vu cet enjeu qu'il avait?
Bah, à la fois oui et en même temps non. Je pense que le rythme nous a paru soutenu par rapport à ses concurrents, mais ne l'était peut-être pas pour lui en fait. J'ai l'impression qu'il était vraiment en maîtrise de son bateau, de ses trajectoires. Voilà, on a retrouvé le Charlie très à l'aise voilà, dans cet exercice d'Imoca en solitaire quand on aurait pu le voir sur les débuts de Route du Rhum ou d'autres courses de ce type-là. Donc c'est à la fois pas une surprise quant au niveau voilà de compétences et auquel il navigue quand il est seul sur son Imoca, et en même temps on peut être un peu surpris peut-être plutôt de l'écart avec les autres concurrents. Difficile à dire, hein, est-ce que c'est vraiment une question de vitesse du bateau, une vitesse intrinsèque qui fait qu'il a un petit avantage aux angles serrés? C'est probable, mais je pense qu'il y a aussi une manière de naviguer qui est vraiment voilà très très impressionnante, hein. Quand Charlie il est dans son truc, qui déroule sa partition, c'est un métronome, et donc voilà, là il a déroulé jusqu'à... On y reviendra un peu plus tard, hein, mais il a déroulé jusqu'à probablement ses petits problèmes techniques. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on avait quand même pour tous une certaine appréhension au départ de cette course, une route nord, une route dangereuse avec des vagues. Et donc je pense que sur tout le début de course, je pense à des gens comme Boris, comme Maxime, comme voilà qui ont vraiment eu cette même Sam et Nico Lundvén un peu plus dans le sud, ils ont vraiment eu cette réflexion d'être sur un rythme plus Vendée Globe finalement, à préserver le bateau, à pas prendre de risques sur le matériel, et donc ils étaient peut-être un peu en retrait sur ces débuts de course, mais ça leur a plutôt réussi in fine.
C'est vrai que Charlie nous a donné l'habitude de partir souvent devant. Il n'y a pas de mise en route chez Charlie. La mise en route, elle est vraiment très rapide. Et même Johan le confiait à l'arrivée que même lui avait eu peut-être un départ un petit peu diesel par rapport à Charlie.
Oui, il a un départ un petit peu diesel. Après, je pense qu'il y a les caractéristiques des bateaux qui jouent, hein. On voit bien que ce soit Thomas Ruyant ou Johan, c'est des carènes qui fonctionnent très bien dans la mer formée, qui fonctionnent très bien au portant, au reaching, mais peut-être un petit peu moins bien que le plan Verdier de Charlie sur les bords ou que Charal sur les bords un peu serrés. Donc moi je pense que dans toute cette phase là, Johan à la fois un placement un petit peu compliqué sous la flotte et en même temps et peut-être un petit peu en difficulté en termes de vitesse, hein. Je crois qu'il y a eu quelques vidéos où il le disait, même il était bord à bord avec Samantha, il avait du mal à égaliser la vitesse avec elle. Donc voilà, on peut pas avoir un bateau qui gagne dans toutes les conditions. Je pense qu'il y a peut-être un petit moins en vitesse aussi dans ces conditions-là pour Johan, qui explique aussi ce départ diesel, même si c'est peut-être un petit peu plus son style aussi d'avoir des départs un peu moins flamboyants que Charlie, quoi.
Il n'y a pas eu de très grosses options stratégiques sur cette Transat CIC. Il y a eu quand même des batailles de positionnement, notamment sur ce début de course au sud-ouest de l'Irlande, avec, comme je le disais tout à l'heure, des marins qui sont passés un peu plus au nord, justement, comme Charlie et Johan, et d'autres un peu plus au sud, dont Nico Lundvén et Paul Meyer. C'était quoi un petit peu les enjeux là de ce premier passage à niveau sous au sud-ouest de l'Irlande?
En fait, il y avait une première dépression, hein, qui restait un petit peu stationnaire dans l'ouest de l'Irlande, et donc il fallait contourner cette dépression, soit en essayant d'en faire le tour par le nord, soit en restant le plus loin possible de son centre, en restant dans le sud. L'avantage de se décaler vers le nord, comme l'ont fait Charlie, Maître Coq ou Yannick Bestaven, Bureau Vallée, c'est de pouvoir massif, c'est de pouvoir avoir ensuite un angle sur le grand bord de Reaching qui soit plus ouvert et donc potentiellement plus rapide. Le danger, c'est qu'on se rapproche du centre dépressionnaire et donc on peut avoir moins de vent. Le choix sage était quand même de se positionner un peu sur des trajectoires comme Biotherm et Nicolas Luneven ou Samantha Davis, un peu plus sud, qui certes était une trajectoire un peu plus auprès, mais permettait d'être sûr de pas être pris dans les calmes du centre dépressionnaire. Au final, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour ceux qui étaient positionnés au nord, mais le positionnement sud était plutôt celui que moi j'avais préconisé et préféré. Moins de risques et aussi comme il y avait une suite qui restait incertaine, on y viendra hein, sur le positionnement de la seconde dépression, ça permettait de se laisser un petit peu plus de choses ouvertes pour la suite du parcours.
Ouais, une route sud un peu moins risquée. Ouais. Après, il y a eu ce fameux grand bord de Reaching, tribord Amur, avec du vent de nord dans de la mer formée. C'est un peu un véritable speed test à grande échelle pour ces bateaux. Est-ce que justement sur ce grand bord-là, tu as noté des différences de performance et quels sont ceux, selon toi, qui s'en sont le mieux tirés?
Bah là, je pense que moi, on avait peut-être tous un petit peu sous-estimé l'état de la mer, en fait. Je pense que tout le monde a retranscrit des états de mer vraiment dantesques, au-delà du vent qui était très fort. Et concrètement, on sait que bah voilà, en IMOCA, dès que l'état de la mer est compliqué, ben les vitesses sont dures à tenir. Donc on a finalement vu des vitesses pas très élevées, hein. Rarement des moyennes au-dessus de 20 nœuds sur ce bord-là. Et je pense, j'ai pas eu les retours, mais je pense qu'on a eu des configurations de voiles avec des tourmentins J2, tourmentins 2 ris, 3 ris. Donc vraiment très très peu de toile, ce qui fait que bah voilà, on a des bateaux qui sont pas très rapides, mais c'est vraiment, il faut vraiment imaginer que à ces allures-là, dans une mer formée, en fait l'objectif du skipper sur les IMOCA à foil, c'est d'essayer de ralentir le plus possible, en tout cas d'éviter les grosses accélérations, c'est-à-dire que le bateau parte à 30 nœuds et qu'ensuite il vienne sauter sur une vague et retomber de tout son poids à grande vitesse. Donc en fait, on est toujours en train d'essayer de trouver le moyen d'avoir une vitesse moyenne pas trop mauvaise et d'éviter les grosses accélérations. Et c'est vraiment pas facile à faire. Et donc je pense, voilà, on a vu sur toute cette phase-là des moyennes finalement pas très élevées. On sentait bien que tout le monde était en mode un peu survie. Je crois que Maxime, je l'ai vu dire plusieurs fois qu'il mettait la course entre parenthèses. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Donc voilà, c'était vraiment des conditions difficiles, de la mer, beaucoup de vent, et je pense que tous étaient dans une approche de préservation du matériel. Et donc bah voilà, on n'a pas pu tirer vraiment d'enseignement majeur sur ce bord de Reaching. D'ailleurs, la flotte est restée assez groupée. Et voilà, on a vu que par moment, certains réduisaient vraiment la cadence. Je pense à Maxime, à Justine, à Boris à ce moment-là. Et je pense qu'ils ont plutôt bien fait, puisqu'après, ils se sont retrouvés avec des bateaux en parfait état pour terminer cette transat, quoi.
Ouais, raconte-nous ce que ça veut dire le mode survie dans ces conditions. Comment on vit à bord? On est attaché dans son fauteuil et on attend que ça se passe.
Ouais, c'est vraiment ça. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le minimum de toile, c'est-à-dire plus de foc devant ou le tourmentin avec 2 ris ou 3 ris dans la grand voile, bon, bah, il n'y a plus grand-chose à faire ni à régler. Donc on est vraiment assis dans son siège. Hein. Je pense que, je sais pas si tu as fait le tour des bateaux à Lorient, mais moi j'ai un peu fait. Tout le monde est passé sur des sièges vraiment très ergonomiques, avec de la mousse, avec des, pour certains, sur vérin, que ce soit Johan Richaume où Sébastien Simon, ils ont des sièges sur Vérin. Donc je pense qu'on a vraiment tous travaillé sur ce sujet confort. Et donc oui, dans ces conditions-là, il faut imaginer qu'on tient pas debout, on tient pas assis. La seule position qui est tenable, c'est d'être allongé ou semi-allongé ou dans ses sièges. Et donc voilà, bah là il faut attendre que ça passe, la télécommande de pilote dans la main, et puis encore une fois essayer de minimiser au maximum les grosses accélérations du bateau pour éviter les chocs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la structure du bateau. On a vu un abandon, enfin en tout cas je sais pas si c'est un abandon, mais le fait que Clarisse se soit déroutée vers les Açores. Sur cloison de J3 cassé, bon bah ça typiquement c'est probablement un choc dans une vague qui a provoqué la casse de cette cloison. Donc voilà, les skippers ils sont vraiment concentrés là-dessus, sur le fait de préserver les bateaux et d'éviter ce type d'accélération qui peuvent complètement détruire le bateau, quoi.
Et là, dans ces conditions, c'est casque et protection.
Alors moi j'ai pas de casque, nous on a pas de casque je crois à bord de Max a pas de casque, mais en fait c'est surtout trouver une position dans laquelle on est allongé et on arrive de temps en temps à relâcher un petit peu la tension musculaire dans les chocs pour pouvoir essayer de se reposer, hein, mais c'est vraiment vraiment difficile. Mais c'est vrai que t'as raison, on voit de plus en plus apparaître des casques, soit des casques de rugby, soit des casques un peu avec de la mousse autour, et c'est pas débile parce que sur la Transat Jacques Vabre, moi j'ai fini avec des bleus plein la tête, donc je pense qu'on est en train d'y venir effectivement, ouais.
Étape suivante sur cette traversée, il y avait une dorsale anticyclonique à traverser. On a l'impression qu'elle a pas fait trop de dégâts. Tout le monde s'en est à peu près sorti. Du moins ceux qui étaient devant sont sortis devant. Il n'y a pas eu de gros écarts qui sont faits sur cette dorsale. Quelle est ton analyse?
Oui, passage de dorsale effectivement qui a été finalement assez facile, de peut-être un petit, en fait les nordistes avaient un peu plus de vent dans ce passage de dorsale, mais plus de chemin à parcourir, et les sudistes avaient un peu moins de vent mais un peu moins de chemin à parcourir. Donc finalement ça s'est assez bien tassé, et puis c'est passé assez vite, hein. C'est la particularité un peu de ces transats nord aussi, c'est que les phénomènes sont assez rapprochés les uns les autres et s'enchaînent assez vite. Cette dorsale, elle a été finalement, elle est passée assez rapidement en 6-7 heures, hein, et en 6-7 heures, bah, il y a eu par contre beaucoup de manœuvres à faire, puisque des vols de portant à mettre pour passer la dorsale, probablement les plus grands jinnakers, hein, qu'on appelle MH0, et puis après très vite, hein, tu le disais, on arrive derrière cette dorsale au contournement de la deuxième grosse dépression de cette transatlantique, et où de nouveau ils ont eu là pour le coup des vents de sud-sud-est très très forts, et donc en quelques heures je pense qu'ils sont passés une fois de plus des plus grandes voiles du bateau aux plus petites voiles, avec à nouveau J3, 2 riz ou 3 riz dans la grand voile, quoi.
Justement, quel était l'enjeu au moment de négocier cette deuxième dépression? Est-ce qu'il y avait quel positionnement idéal il fallait avoir pour la négocier?
L'idée c'était l'idée pour tout le monde, hein, c'était de passer au-dessus du centre dépressionnaire, et donc de rester finalement dans le nord de la dépression au portant, comme tu le disais. Tout en faisant ce qu'on appelle une aile de mouette, hein, c'est-à-dire se rapprocher au maximum du centre sans tomber dans l'endroit où il n'y a pas de vent, et profiter de la rotation du vent autour de la dépression, hein, donc du vent de sud, sud-est, qui ensuite va tourner au nord, nord-est, puis au nord. Et donc l'idée, bah, c'est de prolonger le plus possible le bâbord à mur vers le centre de la dépression, et puis ensuite d'empanner pour se rediriger de nouveau vers l'ouest, en tribord à mur, avec le vent qui a tourné au nord. Donc ça a été voilà une trajectoire qui est là aussi, hein, tu dis peu d'options, tout le monde a vraiment fait des trajectoires très très proches à ce moment-là. Il y a des petits ajustements, mais finalement peu d'écart, et je crois que on peut quand même noter ça, hein. Je sais pas si on a déjà eu aussi peu d'écart entre un groupe de 10-15 bateaux, hein, parce que je crois que je suis en train de regarder sur la carto, mais au sortir de, on est au sixième jour de course, et au sortir de cette dépression, ouais, on a une centaine de milles pour les 10 premiers bateaux, quoi. 100-150 000, avec beaucoup de densité, en tout cas, entre les 15 premiers bateaux, des groupes avec des bateaux qui se voyaient à vue. Bah voilà, c'est génial. Le niveau monte et la densité est de plus en plus importante. Ça navigue de mieux en mieux. Les trajectoires sont vraiment belles. Ça, c'est beau à voir, quoi.
On va parler de Johan et de Charlie juste après. Dans cette jusqu'ici, on a eu une belle prestation de Paul Meya et Nico Lundvén, hein, qui étaient sur une option un petit peu plus au sud. Est-ce que, par exemple, si on prend le cas de Paul Meya, quel est ton regard sur son début de course avant qu'il ait ses problèmes techniques?
Je pense que Paul, ça faisait finalement depuis la The Ocean Race qu'on l'avait pas vu beaucoup sur le circuit. Puisqu'il abandonne très tôt la Transat Jacques Vabre, il fait pas le retour. Voilà. Après, on sait qu'en solitaire, il maîtrise vraiment l'exercice. Vainqueur de la Route du Rhum quand même. Et puis là, il a montré voilà toute sa maîtrise du solitaire avec un bateau qui est très proche de celui que je connais bien de Maxime, mais qui sont quand même des bateaux beaucoup plus durs à mener et à naviguer que des Malidia ou des Archea Paprec. Non, gros engagement, je pense, de Paul et grosse maîtrise aussi, hein, c'est du très très haut niveau et voilà, je suis effectivement un peu triste pour lui parce que je pense que le podium était largement à sa portée, voire peut-être mieux avec le ralentissement à la fin de Massif.
Donc là, on est à peu près le mercredi 1er mai et il y a un tournant. Il y a Johan qui prend à ce moment-là le pouvoir et Charlie connaît un départ à la bâtée qui il a raconté ce matin. Je vais juste vous lire.
Ah ben voilà, j'ai pas l'info.
Parce que t'avais pas l'info. Alors il dit j'ai fait un départ à la bâtée par 45 nœuds de vent, le bateau complètement couché. Je pensais avoir tout cassé, je voyais déjà mes lattes de grand voile en mille morceaux, ce sont les chariots de Alba qui ont arraché leur butée, j'ai navigué 24 heures avec la grand voile en cornette frite, j'ai réussi à bricoler et à refaire un chariot fonctionnel, j'ai également perdu un aérien et celui de remplacement avait des qualités de pilotage moindres. Et puis je prends un truc dans la quille, j'ai aussi constaté ce matin, donc il disait ça hier soir, qu'il manquait une partie de mon safran, bref ce fut une embrouille par jour à partir du 1er mai. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi Charlie, même si Johan a très bien navigué bien sûr, a perdu à ce moment-là pas mal de terrain.
Oui, complètement. Après, c'est vrai que si on regarde la cartographie, hein, Johan était déjà vraiment en train de revenir dans des conditions portant fort. Et d'ailleurs, on voit aussi Boris qui traverse la flotte à ce moment-là. Donc là, il y a vraiment les qualités intrinsèques des bateaux et des carènes, hein, qui jouent. Et je pense que dans ces conditions de vent portant fort avec de la mer, la carène de Malidia que je connais bien pour avoir navigué sur The Ocean Race et celle de Johan que je connais moins mais dont on a vu l'efficacité sur le retour à la base ou sur la Transat Jacques Vabre, fait que vraiment ils sont très à l'aise dans ces conditions. Et puis quant à Charlie, effectivement, on a vu que déjà il était un petit peu moins à l'aise que sur le début de course en vitesse. Et puis ensuite, il y a effectivement voilà ce départ à la bâtée qui où maintenant il nous explique un petit peu toutes les la liste des choses cassées à bord. Mais c'est vrai que en regardant moi, mais d'un œil lointain parce que j'ai pas fait de routage ou j'ai pas regardé intensément, mais j'ai eu l'impression qu'il était vraiment lent quand il y avait besoin de mettre des grandes voiles et des grandes voiles de portant. Charlie, donc je sais pas, c'est peut-être effectivement plus des. Je suis en train de refaire défiler la carte en même temps, mais peut-être plus effectivement comme il dit des moments où il a dû bricoler, s'arrêter, bricoler. Donc on a des moyennes qui sont pas très bonnes, mais qui sont pas forcément liées à. Moi, je pensais qu'il lui manquait des voiles de portant, en fait, ou qu'il avait plus de bout dehors, enfin qu'il y avait quelque chose comme ça, tellement je trouvais qu'il était lent quand il y avait des besoins de grandes voiles. Mais bon, apparemment, c'est simplement des petits bricolages, entre guillemets, mais voilà, des petits bricolages accumulés qui ont fait qu'il n'a pas pu tenir la cadence. Et voilà, mais ça, on le voit très bien aujourd'hui, hein, sur la flotte IMOCA, nous on l'a vécu avec Maxime sur la Transat Jacques Vabre, dès que t'as typiquement un problème d'aérien et donc ton pilote marche un petit peu moins bien, ça fait quand même des grosses différences de performance en vitesse. Nous on avait cassé l'aérien au premier jour, donc tout de suite c'est plus du tout la même chose. Et puis ensuite dès que tu perds une voile ou quelque chose qui fonctionne pas, Typiquement, nous, on avait perdu notre quad, qui est vraiment la voile idéale pour les transatlantiques au portant. Tout de suite, tu décroches du groupe des leaders parce que, comme je disais, il y a maintenant un gros niveau, une telle densité qui fait que si t'es pas à 100% bonhomme et bateau, clairement, tu recules dans le classement, quoi. Et tu te retrouves rapidement entre la 5e et la 10e place, voire plus loin, quoi.
Donc il y a eu après ce gros bord de portant, et comme tu le disais, Boris a traversé la flotte, on l'avait vu sur The Ocean Race, ce plan VPLP est particulièrement efficace dans la brise au portant, les conditions qu'ils ont à ce moment-là de la course, on a l'impression que dans ces conditions c'est vraiment le meilleur bateau, même si Johan a aussi tenu une bonne cadence, mais j'ai vu que Boris avait un moment 90 000 quasiment de retard sur la tête de flotte, et il est revenu à 20 000 quasiment sur ce bord.
Ouais, je pense que le bateau est vraiment incroyable, hein. Dès qu'il y a de la mer, hein, pas que au portant, hein, mais dès qu'il y a de la mer, la carène joue vraiment son rôle. Et puis après, je pense que ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que presque, j'ai envie de dire, les trois bateaux qui finissent finalement aux trois premières places sont des bateaux qui ont des carènes un peu plus rondes, un peu plus roquées, qui passent mieux dans la mer. Et aussi des intérieurs, en tout cas je pense surtout à Johan et Malidia, des philosophies en tout cas qui ont privilégié le confort du skipper. Et ça, on voit que sur des durées, voilà, on est sur une semaine de course, donc c'est pas tant que ça. Mais on a vu sur les vidéos l'état de fatigue des skippers. Et je pense que ça joue, c'est-à-dire que au bout de 7-8 jours, et ben ceux qui ont des bateaux confortables avec une super ergonomie, qui sont bien ancrés dans leur siège, avec des bateaux qui passent bien dans la mer, ils sont moins fatigués, hein. C'est quelque chose qui avait été vraiment hyper flagrant sur, tu parlais de The Ocean Race, hein, l'étape du Grand Sud, on voyait bien que l'équipage de Malidia, ils étaient en pleine forme, ils avaient le sourire, ils avaient des bonnes mines, alors que tous les autres, ils étaient complètement ravagés, quoi. Et là, on retrouve un peu ça avec un Johan et un Boris qui finissent en pleine forme, Boris qui prend son apéro et qui filme les dauphins à quelques heures de l'arrivée, et puis Johan, quand on le voit à sa vidéo d'arrivée, on a l'impression qu'il est parti, il est sorti faire une nave à la journée, il est rasé de près, il a la pêche, il est... Donc voilà, et je pense que ça, c'est évidemment dû à leur niveau de maîtrise, mais c'est aussi dû à la manière dont ils ont conçu leur bateau, la manière dont ils ont imaginé comment on allait naviguer en solitaire sur ces bateaux, et ça paye, et ça payera d'autant plus sur des courses comme le Vendée Globe, où là, il y a du temps, il y a de la longueur et il y a de la difficulté pendant 80 jours.
Tu disais que tu avais navigué sur Malidia. C'est un bateau, je crois, où même Boris il peut se tenir debout à l'intérieur du cockpit. Pourtant, il est pas petit, Boris. C'est vraiment, on a l'impression que, comme tu le disais, il y a eu un gros accent en tirant les leçons du précédent Vendée Globe mis sur cette ergonomie qui est vraiment devenu un facteur de performance qui a pris de plus en plus d'importance.
Ouais, il y a une ergonomie et puis il y a tout l'aspect ergonomique dont je viens de parler, hein, sur lequel tout le monde travaille, mais il y a un aspect aussi mental, moral, d'humeur, qui est que ce soit sur le bateau de Johan ou sur le bateau de Boris, on voit la mer. On voit la mer devant, derrière, à droite, à gauche, et c'est des cockpits qui sont lumineux et sur lesquels on voit la mer. Et donc, je pense que ça aussi, ça joue sur le moral. En tout cas, alors peut-être pas sur une course de 7 jours, mais ça jouera vraiment sur le moral sur une course de 80 jours. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été très bien pris en compte par ces deux skippers-là. Et c'est pas anodin de les retrouver au bout d'une transat très difficile aux deux premières places, quoi.
Bon, Johan a quand même dû puiser dans ses retranchements, dans ses ressources pour tenir la dragée haute à Boris qui lui mettait la pression sur la fin de course, au point que il a raconté, Johan, ce matin, en arrivant, il s'est dit, je me suis écroulé, le vent venait de rentrer, le bateau s'est couché pendant une demi-heure, je ne me suis pas réveillé alors que les alarmes braillaient de partout. Je suis allé assez loin en termes d'énergie. Donc, tu disais qu'il avait l'air pas très fatigué en arrivant, mais il s'est quand même endormi et qu'il n'a pas entendu ces alarmes pendant une demi-heure. C'est quand même la preuve que c'est vraiment des courses très, très engageantes physiquement et mentalement.
Oui, complètement. Non, mais je renie pas du tout le niveau d'engagement que peut mettre Johan ou les autres d'ailleurs. Hein. Je pense vraiment que le. Ils peuvent peuvent mettre ce niveau d'engagement aussi parce que, encore une fois, l'ergonomie, le confort à bord et tout ce qu'ils ont mis en place pour naviguer dans les meilleures conditions font que ils ont encore de l'énergie à mettre au bout de 7-8 jours de course très difficile, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quand même hyper, hyper intéressant. Et puis après, je sais pas si on allait y venir sûrement, mais on en
Oui,
a
on
pas
va
du tout
parler de ça,
parlé. Mais...
ouais.
Voilà, bon, c'est pas une surprise, hein, mais je trouve ça génial, déjà parce que ben on parle quand même de plus en plus de, enfin c'est plus en plus on parle de mixité dans le sport, et je trouve, enfin j'aime bien rappeler que la voile et la course au large, c'est un des rares sports où les filles et les garçons partent à égalité sur la même ligne de départ. Il n'y a pas de distinction, on est un marin, qu'on soit une femme ou un homme, ça fait aucune différence. Et voilà, on a dans l'histoire de la course au large des très grands marins femmes comme Florence Artaud, Hélène MacArthur, Isabelle Autissier, et ça, Monta, elle est vraiment dans cette lignée-là. Elle a une énergie qui est géniale, qui est incroyable, et elle bosse super dur. Et je trouve que voilà, c'est la voir sur le podium, c'est pas une surprise, mais c'est quand même super chouette de la voir là. Et quand je disais pas une surprise, bah à la fois parce qu'elle travaille énormément et qu'elle se prépare très bien, et en même temps un bateau qui, encore une fois, est un bateau bah voilà, où elle a travaillé ce sujet ergonomique, un bateau qui est bien né, une carène qu'on connaît bien, puis qui est très semblable à celle de Bureau Vallée. Mais voilà, qu'elle a su optimiser, mettre à sa main, et ouais, grosse grosse perf, ouais, génial, quoi.
Avec une nouvelle paire de foils qu'elle a installée en début de saison, qui a l'air aussi bien efficace.
Oui, complètement. Une nouvelle paire de foils, hein, pour Boris aussi, hein, c'est une nouvelle paire de foils. Mais je pense que, sans dénigrer la partie de l'impact des foils sur la vitesse, je pense que là, les trois bateaux qui sont devant, c'est quand même des carènes qui, encore une fois, sont des carènes un peu plus tolérantes, qui passent bien dans la mer. Et c'est pas un hasard. Alors peut-être que le discours aurait été différent avec un Paul Meillat qui aurait réussi à s'intercaler, mais je pense que voilà, c'est quand même pas un hasard de retrouver ces carènes-là. Et puis c'est pas un hasard du tout de voir Sam aux avant-postes, hein. On est tout à fait, si on regarde finalement dans un classement qui est très proche de celui de la Transat Jacques Vabre, hein, puisque on retrouve Boris, on retrouve Johan, on retrouve Sam, on retrouve Maxime, on retrouve Justine un tout petit peu plus loin derrière. Mais si on enlève finalement Charal qui a abandonné, et puis les deux TRR Racing, ben voilà, on est de nouveau dans ce groupe de, on va dire, 7, 8, 9 bateaux qui sont bah, très bien préparés, bien structurés. Il n'y a pas de hasard, quoi.
Ouais, pour continuer sur la performance de Sam Davis, donc qui termine troisième à moins de 6 heures de Johan Richomme, quand on regarde ses trajectoires, on a l'impression que c'est toujours très propre, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, c'est assez, on a l'impression que c'est assez fluide quand on regarde d'extérieur. Moi, je suis pas aussi connaisseur que toi. Quel est toi ton regard un peu sur ses trajectoires?
Non, clairement, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ce sujet-là du météo. C'est qu'elle maîtrise aussi l'exercice du solitaire. Je pense qu'elle a eu un passage un peu difficile sur le Vendée Globe précédent, hein, où je pense qu'elle n'était pas très à l'aise avec ce bateau, l'ancien maître coq. Et là, je crois qu'elle retrouve vraiment bah, tout son plaisir habituel qu'elle a en mer, qu'elle a sur l'eau, hein. Je pense que moi, c'est ça qui me marque à chaque fois, la banane qu'elle a dans toutes ces vidéos, alors que c'est tellement dur de naviguer sur ces bateaux. Moi, je trouve ça génial. Donc, je pense qu'elle, là, elle s'est vraiment retrouvée depuis cette Transat Jacques Vabre aussi, avec Jack. Et là, je trouve qu'elle est, voilà, on sent qu'elle est bien, avec son bateau, elle est bien dans son élément. Et effectivement, oui, sur les trajectoires, elle a toujours été très, très bonne, très studieuse, ainsi aussi sur sa météo, et ça fonctionne bien. Il n'y a pas d'erreur, hein. Je pense que les petites erreurs qu'elle peut faire parfois, c'est plus sur des setups, des réglages, des choses comme ça. Mais là, c'est quelque chose qu'elle semble avoir vraiment bien, bien prise en main aujourd'hui. Je crois qu'elle a les manettes de ce nouveau bateau, quoi.
Un mot sur la victoire de Johan Richomme, deuxième de la dernière Transat Jacques Vabre, vainqueur de retour à la base, vainqueur de The Transat CIC. Est-ce que quelque part, ça devient pas lui le favori du prochain Vendée Globe?
Oh bah si si, pour moi c'est clairement si ce n'est le favori, en tout cas un des 3-4 gros favoris, hein, on pourrait citer Massif, Thomas Ruyant, voilà, mais c'est sûr que voilà, il montre son niveau de maîtrise en solitaire, on n'en doutait pas, mais c'est vrai que ça fait finalement peu de temps qu'il est sur ses Imoca à foil, il en a pris complètement la mesure. Un bateau qui est très bien né, une équipe technique qui a super bien bossé, hein, zéro problème technique majeur, même si je crois qu'ils avaient eu un peu des problèmes de structure sur la Jacques Vabre, mais voilà, enfin c'est pour l'instant c'est du sans faute et à la fois de la part de son équipe et de la sienne, donc c'est assez impressionnant, mais pas non plus complètement étonnant, tant le bonhomme est talentueux, structuré, travailleur, bien entouré, donc y a pas de voilà, encore une fois il y a pas de lézard, ils ont les moyens aussi de faire les choses bien et ils les font très bien, donc ouais, rien à dire, et forcément il sera certainement un grandissime favori sur le départ du Vendée Globe. Après, on en a vu plein des grandissimes favoris qui gagnaient pas
Bien sûr, ouais.
ou qui avaient des problèmes mécaniques. Encore une fois, hein, on va revenir sur Paul qui navigue très bien sur cette course et qui abandonne, enfin qui abandonne pas, mais qui est obligé de ralentir complètement sur problème mécanique. Donc la chance fait aussi partie du jeu. Donc il faut pas qu'il épuise trop son capital sans chance aussi, peut-être, Johan, avant le Vendée Globe.
Bon, on va lui dire de pas gagner New York Vendée comme ça, et on lui retirera votre pression. Un petit mot sur la performance de Maxime Sorel, que bah, tu connais bien, tu as navigué toute la saison dernière avec lui et vous avez couru ensemble la Transat Jacques Vabre. Cinquième place, c'est plutôt un très bon résultat. On a l'impression que lui aussi, comme d'ailleurs Yannick Bestaven qui prend la sixième place sur un maître coq 5, on a l'impression qu'ils montent tous les deux un petit peu en régime. Comment tu vois ça?
Oui, bah moi je trouve que c'est pas une surprise en fait, parce que ben si on regarde les résultats depuis la mise à l'eau de ce bateau-là, il fait cinquième sur la Route du Rhum, on fait quatrième sur la Fastnet Race, on fait huitième sur la Transat Jacques Vabre, mais encore une fois finalement c'est quasiment pareil que cinquième ici, puisqu'on enlève Charal qui abandonne et les deux Sam et Thomas Ruyant, donc on revient à une huitième place, donc il a vraiment sa place dans le peloton des leaders, quoi, qui joue pour, on va dire, du podium jusqu'à la 8e-9e place, avec Justine, avec Maître Coq, avec Apicil, avec Boris, avec Samantha, voilà, on est vraiment dans ce groupe qui pour moi est peut-être pas là pour a peut-être pas toutes les armes pour gagner une grande course ou un Vendée Globe, mais peut jouer selon les aléas de la course un podium ou en tout cas une place dans les cinq premiers, donc pas une surprise. Et puis c'est quelqu'un qui est très dur au mal, hein. On a vu, voilà, c'était aussi notre stratégie de course, parce que j'ai un petit peu travaillé avec lui en amont de la course, qui était de dire voilà, on essaye de démarrer tranquillement, de pas faire de bêtises, de pas casser le matériel et de rester présent jusqu'au bout de la course, et ça lui a réussi avec un petit peu de réussite, puisqu'il casse son foil à quelques heures de l'arrivée, c'est pas trop dommageable, mais il faut toujours un peu de réussite, mais non, pas une surprise, parce qu'il est très solide sur ce type d'exercice. Quelqu'un qui est physiquement est très très fort aussi, qui apprend très vite, qui a progressé hyper vite sur la manière de gérer ces bateaux-là. Et voilà, je pense qu'il sera sur le Vendée Globe, au même endroit pour jouer entre peut-être entre 3 et 7, 8 selon l'histoire de la course, quoi. Et des abandons.
Pour finir sur la classe IMOCA, sur cette Transat CIC, il y a aussi un match bateau à dérive, comme on l'appelle. C'est un classement complètement officieux. Il y a un marin qui a fait une très très belle Transat et qui devrait remporter ce match sur les bateaux à dérive. C'est Tanguy Le Turquet, là, qui est, à l'heure où on se parle, qui est 12e à 140 000 de la ligne d'arrivée. Sur un bateau que tu connais bien, puisque tu en as été le skipper, si je me trompe pas, l'ancien DCNS, comment tu vois un peu la perf de Tanguy qui est devant même certains foilers?
Oui, bah Tanguy, je pense que il a bien pris la mesure de ce bateau-là. C'est vraiment un super bateau que j'adore, avec lequel effectivement j'ai participé à ma première Route du Rhum sous les couleurs de DCNS 1000 à l'époque. Et donc non, c'est un bateau que j'aime beaucoup et qui est un bateau vraiment sain en solitaire. Il faut, je crois, Damien Seguin fait, il me semble, 10e du Vendée Globe, ou peut-être même un peu mieux, 8e, non, 8e, 7e du Vendée Globe avec ce bateau-là. Donc non, un très très bon bateau dans le gros temps, un plan Finocon qui fonctionne très bien, et Tanguy qui est un bon figariste et qui déroule bien sa partition. Donc pas de surprise. Je crois que voilà, le match c'était souvent avec Benjamin, qui est dans ce type de niveau-là aussi de navigation, mais qui a eu quelques soucis. Mais effectivement, performance à souligner, puisqu'il y a des foilers qui sont derrière. Donc après, souvent sur des problèmes mécaniques, mais peut-être la petite surprise, je suis en train de regarder la carte en même temps, c'est Prismian. Je sais pas s'il a eu des problèmes ou pas, j'ai pas trop suivi sa course, mais
Oui, je crois, il a eu des problèmes techniques, ouais, je crois, ouais. Tu parlais de Benjamin, juste bon, Benjamin Ferré pour rappeler qui a fait un très bon début de course effectivement sur les bateaux à dérive avant d'être contraint à abandonner. Un petit mot pour finir sur cette Transat CIC, il y a aussi une belle régate en classe 40. Peut-être que tu as regardé un petit peu moins de près les classes 40, mais il y a un super match à trois avec notamment des petites batailles d'options là ces derniers jours. Un coup c'est Ambrogio Beccaria qui avait réussi à creuser un petit écart. Jan Lipinski hier a tenté une belle petite option au nord et il a rattrapé tout ce retard et maintenant ils sont à 550 000 à l'heure où on se parle de l'arrivée avec en embuscade aussi Fabien Delahaye et même Nicolas Destet derrière. Il y a aussi du beau match hein, sur cette classe 40 même s'il y a que 8 bateaux sur 13 sur l'eau en ce moment.
Oui, complètement, du beau match. Et puis là aussi, je suis assez content de mes pronostics dans Tippenshaft Newsletter, puisque j'avais ce trio-là, hein, Yann, Fabien et Ambrogio. Voilà, c'est clairement une grosse maîtrise aussi en solitaire, et des bateaux qui fonctionnent très bien. Donc je pense que ça va être indécis jusqu'au bout. J'ai l'impression que Fabien a un petit peu de retard maintenant. Ça va peut-être être dur de venir recoller avec 60 000, mais bon, rien n'est terminé. Il peut y avoir une phase de transition à la fin, comme souvent. Mais c'est vrai que voilà, pas trop de surprises non plus sur cette Transat en classe 40, avec les favoris qui sont devant et ceux qui ont l'habitude du solitaire. Et puis voilà, je suis pas étonné d'avoir ces trois-là devant.
Christopher, on va maintenant parler de ton actualité à toi. Tu navigues désormais en Ocean 50. Quand tu regardes finalement les Ocean 50 qui ne participaient pas à cette Transat CIC, je crois qu'ils n'avaient pas forcément très envie d'une manière générale. Quand tu regardes finalement le scénario météo de cette course, est-ce que tu te dis, oh bah finalement les Transat CIC auraient pu convenir à ces trimarans de 50 pieds?
Oh, c'est toujours difficile à dire avant. Je pense que l'exercice du solitaire en multicoque, c'est très particulier. C'est quelque chose dont finalement on s'est un peu déshabitué ces dernières années, puisque c'était dans les années 2000 beaucoup plus courant. Donc je pense que ça demande beaucoup de pratique. Moi, j'arrive dans cette classe avec énormément d'humilité, hein. J'ai peu navigué en multicoque, donc c'est vraiment un défi pour moi de venir naviguer en solitaire en multicoque. Donc j'ai pas encore assez joué à cet exercice-là pour dire bon, non, mais ça aurait pu le faire facilement ou pas. Donc une fois que j'aurai fait quelques transats, ou en tout cas quelques nuits en mer, en solitaire, en multicoque, je pourrais peut-être me prononcer sur le sujet. Mais là, j'y vais vraiment avec le maximum d'humilité, et je pense que c'est un peu tôt pour moi pour dire s'il fallait faire ou pas faire.
Bon, bah parlons de cette saison qui va bientôt débuter hein, avec les Ocean 50 Series, le nouveau nom du circuit d'Ocean 50, avec un premier Grand Prix à Saint-Malo fin mai. Où en est aujourd'hui ton projet hein, on rappelle le nom du projet Wind of Trust Fondation pour l'enfance. Où en est le projet pour toi? Est-ce que tu navigues? Est-ce que le bateau est à l'eau?
Écoute, oui, c'est un petit peu un scoop. On vient de remettre à l'eau le bateau, qui s'appelle effectivement Wind of Trust Fondation pour l'enfance, hein. Et où on en est? Eh ben, on en est qu'on va, on a décidé de participer à l'intégralité de la saison des Ocean 50. Néanmoins, on est toujours en quête de partenaires, notamment d'un partenaire titre, puisque on a de nombreux partenaires qui nous ont rejoints et on va les annoncer prochainement. Mais on est toujours pour l'instant sur le gros du budget en autofinancement avec notre structure Marseille. Et c'est vrai que voilà, on vit des moments d'entrepreneur un petit peu difficiles avec mon associé et compagne Amandine, puisque bah, ça fait maintenant un an qu'on est à la tête de ce projet, qu'on porte vraiment avec toute notre énergie, toute notre envie et qui est important pour nous parce que voilà, Wind of Trust, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on vibre, hein, de porter la confiance dans le sport et dans l'entreprise. Mais là, voilà, on traverse des moments, voilà, avec des montagnes russes, des hauts, des bas, mais en tout cas, on sera présent sur cette saison, avec aussi la volonté, enfin pas la volonté, hein, l'ambition d'être ensuite sur le circuit en 2025-2026 avec, comme je te disais, cette route du Rhum qui est vraiment un gros challenge pour moi et quelque chose qui me fait vraiment envie de me retrouver en solitaire sur ces bateaux-là. Je trouve que si on, ça fait penser un peu au face nord en solo intégral pour des alpinistes. Voilà, le multicoque en solitaire, ça reste ce qu'il y a de plus dur et de plus engagé. Et donc, j'arrivais à un moment aussi où j'avais envie d'avoir ce nouveau challenge. Donc, très motivé, très engagé sur ce projet-là qui nous prend beaucoup de temps pour l'instant, plus au bureau que sur l'eau. Mais voilà, on a remis le bateau à l'eau. On sera demain en mer pour l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Et puis, ça va lancer une belle saison 2024.
Bon, on va essayer de donner envie aux éventuels partenaires qui voudraient rejoindre le projet de Christopher Pratt en rappelant que donc le circuit Ocean 50 Series comprendra 3 grands prix, ou je sais pas comment vous les appelez, un à Saint-Malo en mai, un à La Baule en juin, et le dernier, si je me trompe pas, c'est à Sainte-Maxime, pas très loin de chez toi, au mois d'octobre. Et entre les deux, il y aura 2 nouvelles courses, la route des Terre-Neuves qui s'élancera en août, de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination de Saint-Quay-Portrieux, excusez-moi, de la baie de Saint-Brieuc, et la MedMax, une nouvelle course lancée par Quito de Pavan entre Port-Camargue, je crois, et Saïdia Resorts au nord du Maroc. Donc, un beau programme en équipage cette saison. Quel est un peu ton regard, toi, sur ce circuit? On rappelle en plus que cette année est assez exceptionnelle. Les 10 Ocean 50 existants sont quasiment tous sur l'eau. Je crois qu'il y a juste celui pour l'instant d'Éric Defer, non? Je crois qu'il y a Éric Defer qu'on a.
Oui,
non, ah non, oui, c'est oui. Oui, t'as raison.
Tous les bateaux seront présents sur les différents actes et sur les transats, enfin sauf mes aventures de dernière minute, évidemment.
Voilà, donc un beau plateau et des belles courses. Quel est un peu ton regard, toi, sur ce calendrier cette année, avec notamment 2 nouvelles courses, et notamment en Méditerranée, une Méditerranée qui, on le sait, t'est chère.
Oui, ben moi, je suis vraiment ravi de ce programme-là, avec des actes, donc Ocean 50 Series, où on va naviguer en équipage et puis sur des formats run, donc vraiment quelque chose de très dynamique au bord des côtes. Et puis ensuite, bah, 2 magnifiques, une Transmed, une Transat, et surtout bah, aller dans des endroits qu'on connaît pas, hein, parce que c'est vrai que là, on va aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup de découvrir Saint-Pierre, et puis pareil, d'avoir une Transmed qui arrive au Maroc. Voilà, ça change pas mal des circuits traditionnels qu'on connaît. Donc moi, je suis ravi de ces destinations, et puis aussi d'une dynamique avec de nouvelles courses, de nouveaux organisateurs. Voilà, je pense que ça va vraiment dans le bon sens.
Bon, et combien il te faut de trouver de budget idéal dans un monde idéal, Christopher?
Oh, les budgets Ocean 50, sans trahir de secret, les budgets de fonctionnement d'Ocean 50 sont entre 700 et 1 million d'euros par an, hein, de fonctionnement. Donc voilà, on est sur ces montants-là pour les partenariats à titre. Donc voilà, il y a pas mal de discussions qui sont engagées aujourd'hui avec des partenaires pour 2025-2026, mais c'est vrai que l'année 2024 est encore un petit peu dure à boucler. Donc effectivement, avis aux partenaires de dernière minute, il y a de la place à bord de Wind of Trust Fondation pour l'enfance, avec en plus un engagement RSE fort sur un sujet qui est devenu présidentiel, qui est l'impact des écrans et du numérique sur nos jeunes enfants. Donc voilà, on porte ce message-là et on en est très fiers.
Est-ce que tu seras sur Marseille pour les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une, bon, tu as fait de la voile légère, je me souviens plus, Christopher.
Oui, j'ai commencé par là, hein, sport-études en 420, quelques titres notamment de vice-champion du monde en 420, et c'est vrai que j'ai pas basculé dans l'olympisme parce que c'était vraiment la course au large qui me faisait rêver, mais j'ai fait mes premiers boards dans la rade de Marseille et au pôle France de voile, donc qui est devenu la Marina Olympique, hein, qui a été rénovée et inaugurée il y a quelques semaines. Donc la réponse est oui, je serai sur les Jeux Olympiques, autour des Jeux Olympiques plutôt, puisque j'aurai quelques rôles de commentateur pour certaines organisations. Et voilà, donc je ne pouvais pas rater ça, cette opportunité de voir les copains se battre pour des médailles à la maison, hein, et donc ça va être assez exceptionnel. Par contre, le bateau, lui, sera, l'Ocean 50, lui, sera en Atlantique, puisqu'on sera à quelques jours de notre convoyage pour justement Saint-Pierre et Miquelon.
Raconte-nous un petit peu l'atmosphère sur place à Marseille. J'imagine qu'il y a pas mal de petits bateaux qui naviguent en ce moment et qui s'entraînent dans la rade de Marseille. Et il y a la flamme olympique, tu le disais tout à l'heure, qui arrive demain matin sur le Bellem. Est-ce que vous sentez monter un peu l'effervescence olympique?
Oui, bah c'est vrai qu'on le sentait pas trop. Enfin, nous voileux, on le sentait parce qu'on voyait sur l'eau. Bah voilà, sur l'eau, il y a des médailles olympiques en pagaille qui naviguent depuis maintenant presque 2 ans. Donc ça, c'est assez génial de voir ça sur notre plan d'eau, mais c'est vrai que dans la ville on le ressentait pas trop. Je pense qu'il y a eu un premier déclic, c'est l'inauguration de la marina, avec finalement beaucoup de monde qui est venu visiter cette marina. Donc ça, j'étais vachement content de voir ça, ce qui est quand même un engouement autour de l'existence et de la construction de cette nouvelle marina. Et puis ensuite là, ça fait 2-3 jours là encore, le footing ce matin le long du vieux port, on peut quasiment plus passer parce qu'ils sont en train de préparer l'arrivée de la flamme avec un dispositif de sécurité complètement hallucinant. Donc voilà, donc je pourrais te raconter ça un peu mieux demain puisqu'on sera sur l'eau pour l'arrivée de la flamme, mais je crois qu'il y a des milliers de bateaux qui sont attendus, des milliers de gens qui sont attendus sur le vieux port, et je pense que s'il y a quelque chose qu'on sait faire à Marseille, c'est ce type de grande fête populaire où finalement c'est populaire dans le bon sens du terme, où tout le monde est là pour partager, pour vibrer, et là en tout cas pour accueillir la flamme et le début de ces Jeux Olympiques 2024.
Très bien, on va finir par donc les Jeux Olympiques fin juillet qui seront un des grands rendez-vous de la saison. Après, il y aura la Coupe de l'Amérique à Barcelone, puis le Vendée Globe. On va avoir un fabuleux enchaînement à partir de juillet et qui a déjà bien commencé avec cette Transat CIC. Chris, un petit mot pour finir sur le Vendée Globe. Est-ce que tu vas continuer d'ici le 10 novembre, date du départ de cette édition 2024, à jouer un rôle auprès de Maxime Sorel?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, je vais continuer à l'aider comme j'ai pu le faire là au départ de cette Transat CIC, et puis là il a passé la ligne cette nuit, et justement on échangeait quelques WhatsApp ce matin et il me disait bon, il faut qu'on débrief, donc voilà, apparemment je lui suis encore un petit peu utile, même si comme je te disais tout à l'heure, il apprend très très vite et il progresse à une vitesse incroyable. Donc oui, je l'accompagnerai un petit peu sur ce sujet là de préparation du Vendée Globe, et puis après sur le volet IMOCA pour terminer. Voilà, moi, la course qui me fait rêver maintenant, c'est vraiment d'être sur la prochaine Ocean Race, que ce soit Europe et surtout monde. Et donc voilà, donc je vais rester de près connecté au monde de l'IMOCA pour faire enfin ce premier tour du monde qui me fait rêver depuis longtemps.
Eh ben super, merci beaucoup Christopher, c'était super intéressant de t'avoir et de débriefer cette Transat CIC qui s'est donc courue inhabituellement plutôt portant. Je crois que Charlie Dalin rappelait ce matin qu'il a fait en tout 8 virements de bord sur la Transat CIC, ce qui est peu pour une Transat réputée au près.
Ah bah oui, c'est sûr.
On souhaite aux marins encore en mer une bonne fin de Transat. On va suivre de près l'arrivée des classes 40 avec un gros suspense pour la victoire. Christopher, on te souhaite un bon début de saison sur ton Ocean 50 Wind of Trust Fondation pour l'enfance, avec un premier rendez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, à Saint-Malo fin mai. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 164e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous et à toutes.
Salut à tous, bonne journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tippenshaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. À bientôt !